colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le panorama, bon, je vous l'ai dit, c'est une typologie, donc on a essayé de faire un effort chez Thalès pour essayer de, vu qu'il y a quand même 2500 personnes qui travaillent dans le sujet, on a essayé de faire un espèce de cartographie de l'ensemble des technologies qu'on doit maîtriser pour être des acteurs sérieux du domaine. Donc on a divisé ça, vous allez voir, on a fait un certain nombre d'efforts de réflexion. Une première, c'est autour de ce qu'on appelle le smart sensing, c'est-à-dire tous les capteurs intelligents qu'on va mettre dans nos systèmes, dont on a vu d'ailleurs des applications tout à l'heure dans votre présentation sur les robots, mais il n'y a pas que ça. Il y a les capteurs de surveillance, justement les satellites, qu'est-ce qu'on fait des images satellitaires, etc., etc. Donc il y a des choses intéressantes. On va travailler aussi sur tout ce qui concerne les human factors, c'est-à-dire comment on va faire en sorte d'entrer l'homme dans la boucle et faciliter son interprétation des résultats, par exemple, avec des graphiques, avec des visuels tout à fait intéressants. Il y a un gros travail à faire dans ce domaine parce que là, on est assez. D'abord, il n'y a pas eu tellement de progrès. Là, je rejoins M. Crémieux. Il y a des domaines comme ça où il n'y a pas eu des progrès extraordinaires sur la présentation de l'information. C'est plus joli, il y a plus de couleurs, il y a plus de 3D, mais on ne sait pas tellement mieux interpréter. L'homme ne sait pas mieux interpréter des graphiques qu'avant, parce qu'on est limité par les trois dimensions. Et puis enfin, à droite, tout ce qui concerne la décision est un sujet important. Donc je ferai un focus, moi, sur tout ce qu'on appelle aujourd'hui le Big Analytics, parce que c'est un des sujets clés sur lesquels on investit pas mal de monde. Bon. Il y a dans l'ensemble du secteur... analyse, smart sensing, information, analytics, human factor et decision aid, c'est à peu près 2000 personnes chez Thalès en R&T et R&D. Donc c'est quand même pas négligeable, en particulier tout ce qui est traitement du signal fait partie. Dans le smart sensing, je vais passer ça assez vite, ce qui est très important, c'est tout ce qui est l'automatic target recognition, ça c'est un vrai sujet sur lequel il y a pas mal de chercheurs qui travaillent, et sur lequel on a quand même un certain nombre de bons résultats. Tous les gens qui travaillent d'ailleurs dans les domaines sous-marins ou dans le domaine aérien ont des recherches dans ce domaine-là chez nous. Je passe ici aussi sur la decision aid. Un domaine qui est très intéressant, c'est la strategic awareness, c'est-à-dire la compréhension de ce qui se passe autour en faisant de la fusion d'informations. Ça, c'est un vrai sujet. Et la decision aid et tout ce qui concerne l'optimisation revient à la mode. C'est assez intéressant. D'ailleurs, on va revenir sur cette idée qu'il y a des choses qu'on avait un peu laissées tomber qui redeviennent très très fort. J'ai participé récemment à un comité d'études de la défense du CSD, Conseil scientifique de défense, sur le renouveau de l'IA avec un certain nombre de chercheurs de l'université et quelques ingénieurs de l'armement. Et l'idée fondamentale, c'est qu'on voit apparaître, c'est des choses qu'on avait un peu laissé tomber, qui reviennent à la mode aujourd'hui, parce qu'on les voit apparaître dans les systèmes et dans les besoins qu'on a. Là aussi, pareil, sur tout ce qui concerne les robots, les drones, il y a énormément de choses, en particulier, par exemple, l'intelligence sensor management. Comment on peut combiner l'information sur un drone, c'est facile, mais sur 10 drones qui volent en même temps, comment on combine le swarm approach, c'est-à-dire comment le swarming, c'est-à-dire comment on travaille en dessin, quoi. Et le gros problème, c'est comment remonter cette information et la synthétiser, surtout. Pareil, tout ce qui est human factor, le gros problème, c'est user-centric design, qui est marqué au milieu, là. Je passe très vite, hein, parce que sinon, on passerait des heures à pas ça. User-centric design, c'est essentiellement l'ensemble des techniques qui permettent de mettre l'homme au centre de la boucle et pour lui proposer des outils qui puissent gérer facilement. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'on le voit. Alors, on parle de cockpit d'avion, certes, mais il n'y a pas que ça. Et là, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours, qui ne sont pas négligeables. Et puis enfin, voilà le gros morceau, le très très gros morceau, c'est l'information analytique, c'est comment on va récupérer toute cette information dont on parle, à partir des capteurs, à partir du renseignement humain, à partir du renseignement d'images, et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Et c'est là qu'on est à la limite de ce qu'on appelle le big data aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on peut en faire. Bon. Et là se posent vraiment des vraies questions méthodologiques, algorithmiques. Je vous donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, on s'est posé la question, la CNIL s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec les données anonymisées? On peut très bien passer par le biais de la crypto pour cacher les données, sauf que si on crypte toutes les données, on ne sait pas bien les analyser, parce qu'on ne sait pas corréler les données cryptées ensemble. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On a à notre disposition un certain nombre d'algorithmiques externes qui sont extrêmement puissantes et qui sont capables de fabriquer ce qu'on appelle du floutage dans les données. Ces algorithmes sont récents, ils datent de 2006-2007, et ils permettent de faire des choses qu'on n'avait même pas imaginées il y a quelques temps. Donc il faut voir qu'il y a un certain nombre de choses, et je rejoins les deux points de vue, dont on parlait tout à l'heure, là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui est moderne, est-ce qu'il y a des ruptures, est-ce qu'il y a des révolutions ? Oui, il y en a, mais on va le voir à l'instant, juste après, qu'on va s'appuyer sur des choses qui existaient avant et qu'on va recombiner de façon différente. C'est ça la nouveauté, cette recombinaison d'un certain nombre d'idées. Donc je ne lis pas tout. Vous voyez, tout ce domaine est très très vaste, énorme. Personnellement, scientifiquement parlant, je m'occupe de celui-là pour tout à l'aise. Donc il y a énormément de choses qui arrivent dans tous les sens. Sachez que le plus intéressant, c'est sans aucun doute celui qui concerne la façon dont on va traiter les masses de données considérables dont on va avoir à faire. Chez Thales, on traite des données spatiales, on traite des données, on a travaillé par exemple pour le CNES pour mettre dans une base de données centrale l'ensemble des paramètres de l'ensemble des étoiles du système de la galaxie, de notre galaxie. Ça fait 1 milliard 700 millions d'étoiles avec chaque étoile caractérisée par 88 paramètres. Donc il faut quand même le stacker quelque part. Ça fait 280 milliards d'informations individuelles à stocker. Donc vous voyez bien qu'on change de paradigme. Alors juste pour vous donner une petite idée de ce qui se passe, un petit retour historique intéressant. Il y a quelques temps, on parlait de statistical data analysis. Tout le monde en faisait. On a parlé tout à l'heure de recherche opérationnelle. C'était les années 40 et quelques. La Rand Corporation, des gens comme von Neumann, des gens comme Birkhoff, des gens très brillants ont développé un certain nombre d'outils qu'on n'avait pas oubliés, puisqu'on les utilisait encore il n'y a pas longtemps. Et puis, quelque part, il s'est passé un certain nombre de ruptures. D'abord, il y a eu ce qu'on a appelé la business intelligence, qui a essayé de travailler sur les données pour en donner pour en sortir des choses intéressantes. Et puis aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le big analytics, c'est-à-dire le traitement des grandes masses de données pour en sortir la scientifique moelle. Qu'est-ce qui s'est passé entre tout ça? Alors, ce synoptique essaye d'expliquer les évolutions. On est passé de ce qu'on appelle la statistical inference avant les années 85 à ce qu'on appelle aujourd'hui la constrained data mining. Le data mining, c'est un mot très à la mode dans les années 1985-2008. Et puis 2008, on parle de big analytics, c'est-à-dire de ce traitement de données dans lesquelles on ne fixe ni les dimensions des matrices qu'on va analyser, ni les nombres d'individus qu'on veut gérer. Ça rentre tout seul. C'est la problématique de Google, de Facebook, etc., etc. Donc, à partir de là, des tas de choses ont changé. D'autres n'ont pas changé. Et ça s'explique sur le schéma suivant. Le schéma suivant, il vous montre quelque chose qui est tout à fait sur lequel on base nos recherches. Vous avez des tas d'algorithmes qui sont cités là-dedans, je ne vais pas revenir dessus, mais regardez bien dans ce schéma, il y a deux choses intéressantes. Premier, c'est ce qu'on appelle lack of population knowledge. Quand on travaille sur un phénomène, qu'on va étudier ce phénomène, que ce soit des données spatiales, des données de terrain, des données de com, des données d'interception, peu importe. Si on connaît la population sur laquelle on travaille, on peut faire des hypothèses sur cette population, on peut faire des hypothèses sur les lois, sur les paramètres, etc. Donc on est beaucoup plus simple, on est dans un domaine très simple sur lequel on peut faire des choses, compte tenu, les choses étant égales par ailleurs. D'autre côté, vous voyez en face, à l'autre dimension, c'est la dimension de complexité. Donc si on ne connaît pas la population d'une part, et si on est dans un domaine complexe, on est dans ce qu'on appelle le vrai big data, c'est-à-dire quelque chose qui, pour lequel il y a de la nouveauté, pour lequel il s'est passé des révolutions réelles depuis quelque temps. Et c'est peut-être pour moi la zone qui est en rose, la seule zone pour laquelle il y a eu une évolution majeure dans ces quelques années qui ont précédé celle d'aujourd'hui. Et on va revenir dessus, je vais faire un focus sur un problème particulier qu'on appelle la triangulation et la modularisation d'informations dans les grands réseaux. Vous allez voir que c'est un problème extrêmement passionnant. Alors vous voyez, il y a un axe qui est très intéressant aussi, qui est la première bisectrice, qui va depuis ce qu'on appelle l'hypothèse driven, quand on essaye d'expliquer un phénomène sur lequel on connaît des choses, On est comme en médecine, on pense que les gens vont avoir le cancer, on cherche des paramètres types, etc. Parfois, on ne sait pas ce qu'ils ont, on est à droite, on va prendre les données, on ne sait pas, on découvre l'information. Alors pourquoi on découvre l'information ? Parce que quand on est sur des réseaux sociaux, si vous savez dire d'avance qu'il va y avoir 1700 classes de communication entre les gens, mais vous êtes très très fort, on ne sait rien. On ne sait pas, quand on travaille sur les vrais systèmes de coopération entre les réseaux dynamiques informatiques, on ne sait pas non plus, quand on travaille dans la fraude, quand on travaille dans la cyberdéfense, on ne sait pas dire d'avance ce qui va se passer. Donc on est dans la zone droite là-haut, d'où l'intérêt du big data, justement. Alors, justement, je résume ça par ce principe. Le General Analytic Process est très simple. Où je connais, j'ai une préconnaissance de la population sur laquelle je travaille, et à ce moment-là, oui, je passe à des méthodes relativement classiques qu'on sait faire depuis très longtemps, depuis l'époque de la Rand Corporation, d'ailleurs, depuis des gens comme Fundeman, comme Stiglitz et autres. Et à droite, on se trouve dans un domaine où là, il faut faire de l'exhaustivité, il faut donc avoir des algorithmes extrêmement puissants, pour pouvoir résister à la complexité des problèmes qui sont à droite. Or, les problèmes qui sont à droite, c'est justement les problèmes dont vous avez parlé tout à l'heure, monsieur Blamont, sur la notion de connectique partout. Tout le monde se connecte. Donc, pour avoir de l'information réelle et analysable là-dessus, il va falloir avoir des algorithmes costauds. On ne pourra pas faire de sondage. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne peut pas faire de sondage. Alors, là, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Si, peut-être un petit point là. Tout en bas, vous voyez, il y a la notion, qu'est-ce que c'est que les vrais problèmes de big data ? Eh bien, quand on veut faire du text mining, contrairement à ce qu'on croit, on ne va pas faire de l'analyse syntaxique profonde, ni la compréhension des textes, on peut le faire qu'à posteriori. On fait du word spotting, c'est-à-dire on cherche juste à savoir ce que disent les gens. C'est ce que fait la NSA. Quand elle intercepte des messages, elle ne va pas faire de l'analyse linguistique profonde, elle fait juste, est-ce que le mot « untel » a été prononcé ou pas ? Sinon, ben bien sûr, on n'est pas scalable, c'est-à-dire qu'on n'est pas le problème de monter en charge n'est pas satisfait. Deuxième problème sur lequel je vais insister, c'est les problèmes d'en bas, la modularisation, le routing, tous ces problèmes qu'on voit dans les réseaux et qui sont extrêmement difficiles. Alors, je vais vous parler de deux problèmes, voilà, deux problèmes fondamentaux, deux théories fondamentales. La première, c'est la network modularity et triangulation, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans des grands réseaux. Ça s'applique, alors, ça s'applique dans les réseaux sociaux, dans les réseaux de com, dans les réseaux de remontée d'informations, dans les réseaux dynamiques, dans les réseaux qu'on trouve en interactomique, en physique du solide, ou dans les problèmes génétiques et moléculaires. Donc, ça, on en trouve partout. Problème, comment je découpe des grands graphes comme ça en structures qui soient analysables et interprétables ? Ce problème s'appelle la modularité. Le deuxième problème de la triangulation, c'est qui parle à qui sous forme de transitivité. Qui parle à qui, quels sont les amis de mes amis, grosso modo. Sur le net, c'est très intéressant parce que ça permet de détecter des structures de contre-terrorisme, de terrorisme, etc. etc. Donc on travaille sur ces sujets-là qui sont relativement intéressants d'un point de vue défense du territoire, on va dire ça comme ça. Deuxième sujet qui est très important, un sujet qui s'appelle l'optimal transport. Transport optimal, qui avait lieu à Seri Villanis à Medaifil il n'y a pas tellement longtemps, il y a 6 ans, et qui est un sujet sur lequel il y a énormément de développements qui se font aujourd'hui. La combinatoire des deux, c'est-à-dire en combinant les travaux sur les réseaux et les travaux sur le transport optimal, on est en plein dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui au niveau des high research en mathématiques, par exemple. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que justement ça traite des problèmes sur lesquels on s'était posé pas mal de questions, pas d'aujourd'hui justement. Là, on parle de Monge, vous voyez, c'est 1781. Je vais vous parler juste après de Condorcet, 1785. La théorie condorcéenne et la tonnerie de Monge, ça a donné à Villani le droit de faire sa médaille Fields. Mais aujourd'hui, ça nous permet d'analyser des très, très grands graphes. Quand je dis très grands graphes, c'est des graphes avec 300, 400 millions de sommets, hein, quand même, et des milliards de liens. Donc, savoir ce qui se passe dedans. Donc, ça permet à certains de comprendre qui parle à qui dans certaines zones du territoire ou dans certains pays étrangers. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce que font nos amis américains aussi. Hein, on se bat avec les gens du MIT là, sur les performances. C'est intéressant. Donc, juste pour vous montrer, vous voyez que il y a des gens. On retrouve d'ailleurs les gens de la recherche opérationnelle, parce qu'il y a Kantorowicz qui était un des très très grands noms de la recherche opérationnelle. C'est lui qui a inventé les principes de la théorie des graphes. Il y a un grand anglais là qui s'appelle Sir Ronald Wilson, qui est l'inventeur de ce qu'on appelle la direction spatiale, qui est d'ailleurs face à Laplace, parce que Laplace avait travaillé aussi. En dessous, il y a quelqu'un qui est absolument génial, qui s'appelle Alan Hoffman, qui est quelqu'un qui travaillait à la Research IBM. J'ai passé 30 ans à IBM, en particulier à la Research. Cette personne-là, il était 10 fois moins connu que Mandelbrot, qui a inventé les fractales, mais était 10 fois plus fort. C'est lui qui a travaillé sur les nomenclatures de la structure d'un certain nombre de problèmes. Il a été patron de la revue Linear Algebra, voilà le genre de personnage. Et puis derrière, vous trouvez son Condorcet, qui a été à l'origine d'une théorie qu'on applique aujourd'hui dans nos produits. Alors, et que IBM applique aussi d'ailleurs, dans son produit Watson. Donc l'idée ici, c'est comment j'arrive à découper, les couleurs représentent des cl les clusters d'un grand graphe. Le grand graphe, vous imaginez, ça peut être des gens qui sont en train de se parler, qui vont faire telle ou telle action. Les clusters, on ne sait pas quelle est la taille qu'ils peuvent avoir, on ne sait pas d'avance quelle est leur taille, on ne sait pas combien de classes à l'intérieur du graphe. Et comme le graphe est monstrueux, je vous donne un exemple à droite. Ici, vous avez un graphe de 120 millions de sommets avec 1 500 000 liens. Ça donne 2 770 000, avec des tas de méthodes différentes, peu importe, 2 770 000 classes. Donc vous ne pouvez pas les prévoir d'avance, d'accord? Et maintenant, quand on sait qu'il y a 2 700 000 classes, on s'aperçoit que ça fait des classes à peu près de 60 personnes, à peu près en moyenne. Eh bien, c'est grosso modo les clusters de personnes qui communiquent entre eux, qu'elles soient malfaisantes ou pas, dans un grand réseau. Ici, c'est un réseau de collection web-based, c'est un réseau codé, on va dire. À côté, vous avez un réseau non standard Amazon. Vous voyez que le nombre de classes est beaucoup plus petit parce que ça agglutine beaucoup. Juste pour vous dire ça, c'était juste pour vous montrer les genres de techniques sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Ce sont des vraies techniques sur lesquelles on se compare à ce que font les Américains. C'est un challenge, c'est intéressant. Avec Paris 6, avec des universités comme Toulouse, Paris, les gens de certaines grandes entreprises aussi. Orange, on travaille avec Orange. On fait partie de la chaire polytechnique sur ce genre de sujet avec Orange et qui est russe. Et les gens d'Orange travaillent sur les mêmes sujets que nous. Et ils ont aussi des problèmes de réseau. Et voilà l'avenir. Voilà l'avenir, c'est ça. Ce sont les outils analytiques qui nous permettront de faire des prévisions. Donc ici, il y en a quatre. Les outils qui travaillent sur ce qu'on appelle le nouveau domaine de l'IA, ce qu'on appelle les nouvelles méthodes neuronales, c'est-à-dire qu'ils vont travailler sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones auto-encodeurs qui s'apprennent eux-mêmes. C'est-à-dire des réseaux qui vont travailler sur leur propre structure pour se définir les facteurs clés. On va travailler sur ce qu'on appelle le data streaming. Alors, le data streaming est très intéressant. C'est toutes les données qui arrivent à la volée à toute vitesse. Toutes les données qui arrivent à toute vitesse. On sait que les algorithmes qui peuvent marcher dessus, par définition, doivent être simplistes. Parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Par exemple, un exemple, c'est les données de trading. Les traders travaillent sur des données qui arrivent à tout ça. Il y a des milliers de données qui arrivent par millième de seconde. Donc, ils décident, toutes les 10 secondes, ils décident quelque chose et il faut qu'ils aillent très vite. Donc, les algorithmes qu'il y a derrière sont bien entendu des algorithmes simples, simplistes même. Donc, la fonction fondamentale qu'on cherche à faire, c'est est-ce qu'on peut compliquer un peu les algorithmes, les sophistiquer un peu, dans un laps de temps très très court, qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui ne va pas passer? Et pour faire ça, on est obligé de faire ce qu'on appelle de la linéarisation. Quelqu'un a parlé tout à l'heure d'algorithmes parallèles, hautement parallèles, je crois que c'est Monsieur Blamont, haute parallélisation, mais également linéarisation des process. Donc, on va être obligé de faire ça. Sinon, on ne pourra pas assimiler les données qu'on vient. Et un des gros problèmes qu'on a, c'est un peu comme le problème d'un pipe dans lequel il y a un trop gros diamètre, on ne peut pas récupérer ce qui sort, on perd la moitié de l'information qu'on a collectée. Donc, pour arriver à faire ça, il faut trouver des algorithmes qui soient linéaires, sinon ça ne sert à rien. Donc, un des gros problèmes du big data, c'est est-ce qu'on a des algorithmes capables d'assimiler tout ça? C'est la vraie problématique. Aujourd'hui, pourquoi les gens ne font pas de big data? Ils font des sondages, parce qu'ils pensent qu'en faisant des sondages, ils connaissent mieux la population. Quand ils ne connaissent pas la population, leurs sondages sont biaisés, leurs résultats ne sont pas bons. Un exemple, c'est l'élection du président Poutine, pas président Helsine, en Russie. On avait fait venir les meilleurs instituts de sondage français pour prévoir les élections, je ne sais pas si vous en souvenez, l'erreur a été commise sur l'estimation du nombre de voix de M. Helsin, qui était de l'ordre de 15 à 20%. 15 à 20%, avec les meilleurs instituts français qui, eux, sur les présidentielles en France, ils font des erreurs de 1,5%. Là-bas, ils ont fait 15 à 20%. Tout simplement, mais qu'on ne connaît pas la population. Quand on ne connaît pas la population, on ne fait pas de sondage. 80% des problèmes qu'on aura dans quelques temps seront des problèmes sur lesquels on ne connaîtra pas la population. On trouve ça dans la fraude, on trouve ça dans tout ce qui est cybersécurité, on trouve ça dans tout ce qui est les réseaux sociaux, les réseaux dynamiques, les pannes, etc., etc. Et bien sûr, le spatial, parce que ça remonte aussi. Toutes les images, tout ce qu'on regarde, on traite beaucoup de données qui ne servent à rien parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et enfin, dernier point fondamental, la dynamicité des choses. Les choses qu'on analyse bougent en même temps qu'on les analyse. Et c'est ça qui est un vrai problème. Et là-dessus, il y a des tas de recherches qui se font chez nous, en France, dans les universités comme Paris 6, bien sûr, qui est la plus grosse sur ces sujets-là, mais également à Lyon, au LIRIS, à Lyon. Il y a une très belle équipe qui travaille sur les graphes dynamiques. Il y a des tas de gens qui travaillent aussi au Labri à Bordeaux sur ces sujets-là. Donc il y a une bonne culture française là-dessus, pas mauvaise, un peu moins bonne que ce qui se fait, bien sûr, aux États-Unis, mais on n'est pas si mauvais que ça. Et on arrive à faire des choses intéressantes. Enfin, dernier point, je vais juste vous montrer un problème qu'on s'est traité aujourd'hui, c'est le problème du co-clustering, c'est-à-dire comment on peut à la fois analyser des clients, des malades ou n'importe quoi dans l'espace de gauche, C1 jusqu'à CN. CN, ça peut faire 25 millions, hein, 30 millions, 100 millions, peu importe. Et au-dessus, un certain nombre de paramètres qui sont les attributs, les variables, tout ce que vous voulez aussi. Eh bien, sachez que ce genre de choses, le problème qui consiste à repermuter la matrice pour qu'elle ait cette tête-là, qu'on appelle l'analyse syndromique, ou l'analyse par sériation ou biclustering, c'est un outil extrêmement puissant pour dégager des tendances faciles dans des matrices de données monstrueuses. Pas besoin de faire d'analyse profonde, on fait l'analyse de surface, ça suffit largement pour avoir des résultats intéressants, de corrélation spatiale, on va dire. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors juste avant, en termes de conclusion, j'ai parlé assez vite, je suis prêt à répondre à vos questions. Il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Brouwer, qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, 2002, qui montre que quand on veut stocker de l'information, on est coincé. Soit on stocke en considérant qu'on va satisfaire la contrainte de disponibilité des données et de consistance des données, c'est l'axe à gauche. Soit on stocke en supposant qu'on va disposer des données et qu'on va avoir une tolérance au partitionnement des données un peu partout, c'est à droite. Et en dessous, ce qui est un peu moins fréquent, c'est qu'on va faire la consistance avec partition de tolérance. Alors juste pour vous montrer ce que ça veut dire tout ça, la disponibilité des données, ça veut dire vous posez une question à un système, quel qu'il soit, Google ou autre, et puis vous êtes content d'obtenir un résultat dans les 10 millièmes de seconde, enfin dans la seconde qui suit. Et si jamais ça fait une seconde et demie ou deux secondes, vous n'êtes pas content, trois secondes, vous ne supportez plus, vous fermez votre ordinateur. Bon, c'est ce qu'on appelle l'availability. La deuxième critère, c'est la consistance. C'est quoi la consistance ? C'est le fait que quand vous allez poser la question à Google aujourd'hui, vous allez avoir un résultat, sur peu importe la question que vous posez. Si vous posez la question demain, vous n'allez pas forcément avoir le même résultat. Je ne sais pas si vous avez constaté ce phénomène. Bon, c'est la non-consistance des stockages à la Google. Pourquoi ? Parce qu'ils ont privilégié la disponibilité et la partition de tolérance. Pourquoi ? Pour eux, ce serait intéressant. Ils ont toutes leurs fermes de données qui sont à 10 ou 20 endroits différents, hein, de Dulles, passant par Helsinki ou ailleurs. Donc, eux, la partition de tolérance, c'est fondamental pour eux. Deuxièmement, ils disent, bon, les gens veulent avoir des résultats, donc c'est availability et partition de tolérance qui est important. Donc, ils ont développé une structure qu'on appelle NoSQL, Not Only SQL, c'est-à-dire une structure qui est adaptable, qui est très agile et qui permet de rentrer les données quand on veut. Parmi leurs, et d'ailleurs, Facebook fait pareil, puisque la base de données Facebook qui s'appelle Cassandra, qui tient en compte des millions des centaines de millions ou de milliards de nœuds du réseau, gère ça facilement avec ce principe de partition de tolérance et d'adaptabilité. Par contre, quand vous appelez Oracle, et que vous êtes habitué à fournir aux entreprises des résultats absolument consistants. Prenons un exemple, vous êtes une société de réservation d'hôtels, vous êtes la société Amadeus qui réserve les places d'avion. Vous avez intérêt à être consistant, sinon si vous allez voir le voyageur qui va trouver à sa place deux personnes qui ont la même réservation, ça peut être content. Donc pour vous, vous êtes plutôt à gauche, là. Vous êtes plutôt côté Aura, côté de, etc. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que les gens d'Oracle, ils étaient très très mal, ils étaient en train de crever, quoi, finalement, face à l'assaut des acteurs à droite. Ils se sont battus comme des dingues, et ils ont dit, tiens, mais on a une structure qui s'appelle SQL, que nos amis de Google, de Apple, de Facebook, etc., rejettent. On va essayer d'attaquer une nouvelle structure. Et récemment, il y a à peu près 2 ans, ils viennent de sortir New SQL. Alors pourquoi il y avait un problème avec SQL? Bah, tout simplement parce que SQL ne satisfait pas le problème suivant. Quand vous changez le nombre de paramètres, quand vous changez les colonnes de description de votre problème, et c'est tous les jours que ça se passe, toutes les 10 secondes chez Facebook, eh ben, vous pouvez pas rajouter une colonne de plus dans le metadata SQL. Alors justement, maintenant, grâce à une nouvelle astuce, SQL se met à faire ce qu'on appelle du New SQL, c'est-à-dire la possibilité d'étendre des calculs extrêmement rapides pour être compétitif avec ceux d'en face. Ce que je vous raconte là, ça date d'il y a 3 ans, c'était même pas 2 ans. Ça bouge tous les jours là-dedans. Voilà un domaine qui bouge tout le temps, le stockage de l'information. Et d'ailleurs Google lui-même, vous voyez, alors qu'il est à droite, c'est Google qui a développé ce qu'on appelle HBase. Google, il développe aussi un outil de New SQL parce que Google, ils sont très réactifs et ils ont vu que le danger n'a pas de 2 côtés à la fois. Voilà, juste c'est une petite. Alors il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Rouer qui dit qu'on peut pas avoir les 3 à la fois, donc il faut choisir 2.